Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe aux États-Unis à la fin du 19e siècle et défraie la chronique au début du 20e. Elle raconte la vie de deux frères, l'anglais et Homer Collier, fils d'un gynécologue et d'une chanteuse d'opéra, qui héritent, à la mort de leurs parents, d'une vaste demeure à Harlem sur 3 étages. 4 ans plus tard, Homer perd la vue. Son frère arrête de travailler pour s'occuper de lui. Peu à peu, les deux frères commencent à s'isoler, puis à s'enfermer. Ils vivent ainsi, reclus, sans eau ni électricité et encore moins de visites. Seul l'anglais sort pour récupérer des objets et de la nourriture qu'il accumule frénétiquement. Leur mode de vie attire les curieux qui se regroupent devant la maison en quête d'un signe. Les rumeurs vont bon train sur leurs richesses cachées. Les frères multiplient alors les pièges et barricades dans la maison pour prévenir la moindre intrusion. Pendant toutes ces années et jusqu'à leur mort, ils entassent pas moins de 136 tonnes de bric-à-brac, dont 25 000 livres. Le tout constitue une masse ahurissante, empilée jusqu'au plafond, selon un système complexe, incluant des boîtes et des tunnels, reliés entre eux par des fils et imaginés par l'ingénieux l'anglais. Au milieu de tout ça, les deux frères se créent des sortes de nids pour dormir. Ils refuseront de laisser entrer un pompier pour éteindre un petit feu, un employé du gaz ou même les forces de police qui tentent en 1942 une procédure d'expulsion. Ils ont accumulé derrière la porte d'entrée et jusqu'au plafond une telle quantité de détritus et d'objets divers qu'il devient impossible de la forcer. Les journaux de l'époque consacrent de nombreux articles aux deux frères qu'ils surnomment les ermites de Harlem. Ils meurent en 1947, victimes de leur propre piège. Le cadet, l'anglais Collier, est écrasé par une valise et 3 énormes liasses de journaux alors qu'il rampe dans un tunnel de journaux pour apporter à manger à son frère devenu paralysé, conclut Wikipédia. On retrouve sur les 3 étages des milliers de choses incroyables avec et sans forme, un landau, 4 bicyclettes, des kilos de pommes de terre, de la nourriture avariée, une collection d'armes, des balles de bowling, des mannequins en plastique, des centaines de photos de pin-up, des portraits en tout genre, un équipement de cinéma et j'en passe. Tout de suite dans les pieds sur terre, accumuler, c'est notre thème, 2 histoires plus raisonnables quand même, mais pathologiques tout de même, racontées par Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 52 ans, je m'appelle Claire et j'habite à Bruxelles. Ça fait des années que je conserve plein de choses, des cartons, des meubles, des coussins, des vêtements, des chaises, des objets de décoration. Je me souviens que la toute première fois que j'ai commencé à conserver comme ça des objets, on ne sait jamais, c'est quand ma grand-mère est partie dans une maison de retraite, dans un EHPAD, et à ce moment-là, j'ai vidé les armoires avec mon papa. Et j'ai commencé à tout conserver, donc j'ai gardé toute la vaisselle. C'était pas des objets souvenirs que je voulais, c'était des choses utiles, qui allaient m'être utiles pour le futur. Des poêles, des casseroles, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, voilà. Quelques objets de décoration, mais pas tant que ça finalement. Et j'ai conservé tout ça dans ma chambre de jeune fille. J'avais à l'époque 14-15 ans, mais c'est resté dans ma chambre à coucher pendant... 7 ans, à attendre le jour où j'en aurais besoin. J'ai toujours continué à fonctionner de cette façon, mais ces affaires-là, elles n'ont jamais encombré ma chambre. J'avais une armoire qui leur était dédiée, c'était enfermé là-dedans et je n'y touchais pas. Je savais que le jour où j'en aurais besoin, ce serait là. Ce qui a fait que par après, j'ai conservé beaucoup plus de choses, c'était des projets. Ah, je vais faire du tricot. Ah, je vais faire de la couture. Et donc, je commençais à garder les morceaux de tissu, la laine, des aiguilles à tricoter, tout ce qui était dédié aux travaux manuels. Je pouvais mettre ça dans une grande boîte. De nouveau, ça ne m'encombrait pas plus que ça. Les pièces de vie étaient viables. Le moment où ça a vraiment commencé à m'encombrer, à se déclencher, est venu un peu plus récemment. C'est suite à mon divorce. Et je me suis vraiment sentie abandonnée par l'être que j'aimais. Il est parti, donc vivre avec une autre femme. Il m'a laissée seule avec deux enfants, tout petits. Et j'en parlais un petit peu autour de moi. Puis les gens voyaient que j'avais pas beaucoup de moyens. Et donc, ils ont commencé à me donner des choses. On a commencé à me donner des vêtements, des objets de puériculture, des tas de choses comme ça. Et au début, j'étais complètement désorganisée. Puis c'est devenu un peu plus organisé. Je faisais des paquets avec des âges marqués dessus. Je savais qu'une fois que l'enfant aurait atteint tel âge, je pouvais sortir telle caisse. Tout ça était bien organisé. Puis j'ai eu des amis qui sont partis, des amis auxquels je tenais beaucoup. Donc de nouveau, je me suis vraiment sentie abandonnée, le déchirement. Et alors, elle me disait, oh, ben, si tu veux, tu peux prendre des choses. Il y en a une qui est partie au Canada. Évidemment, elle n'allait pas embarquer toutes ses affaires. Donc, je récupérais tout ce qu'elle n'avait pas vendu. Hein, les petits meubles, des ustensiles de cuisine, des appareils électroménagers. Je récupérais aussi des jouets pour mes enfants. Et voilà, tout ça s'est accumulé chez moi. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des choses que je récupère chez des gens qui déménagent ou qui sont décédés. Les enfants viennent me voir en disant si tu as envie de venir prendre l'une ou l'autre chose. Et je prends même des choses que je n'ai pas besoin directement, mais en me disant on ne sait jamais, même si je m'en sers pas pendant des mois ou des années. J'ai quand même le souvenir des choses que j'ai conservées en vue d'eux. Et donc, je pense que je devais avoir une vingtaine d'années. J'avais acheté dans un salon une petite pancarte qui indiquait que mes enfants dormaient et qu'il fallait faire silence. Je m'étais dit, ah, le jour où j'aurai des enfants, ce sera pratique de mettre ça sur la porte de la maison. Et en fait, j'ai eu mon premier enfant quasiment 15 ans après. Je savais que j'avais cette plaque et j'ai été la rechercher. J'y avais pas touché pendant 15 ans et j'ai remis la main dessus et je l'ai mis sur ma porte et j'étais tellement contente de ne pas l'avoir jeté. Mais si on suit les principes des gens qui disent faut liquider tout ce que vous n'avez pas touché pendant 6 mois, 1 an, si vous ne l'avez pas touché pendant 1 an, c'est que vous n'y toucherez plus jamais de votre vie, eh ben vous voyez que c'est pas vrai, hein. Il y a des cartons qui contiennent plein de choses qu'un jour j'aurai besoin. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme une forme de sécurité, me dire que au moins c'est là, au cas où, ça pourrait me servir peut-être un jour. À la fois des objets qui sont d'occasion, des objets neufs que j'ai achetés dans d'excellentes conditions, en me disant, ah, comme ça au moins, quand ma poêle sera usée, ben, j'en ai déjà deux qui pourront remplacer. Bon, je travaillais en même temps et donc j'étais seule avec mes deux enfants, donc j'avais pas beaucoup de temps. J'accumulais des choses sans savoir vraiment le jour où j'aurais l'occasion de me pencher dessus. Et puis bon, les enfants grandissant, j'ai commencé à entasser aussi des choses dans leur chambre. Maintenant, ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus fâchés. Mais bon, je pense qu'ils comprennent. Ils voient que c'est une très grande souffrance pour moi de me défaire des choses. Je fais mon mea culpa, c'est comme ça. Et donc ça s'est entassé. J'ai commencé à manquer de place, jusqu'au jour où je ne savais quasiment plus bouger dans ma maison. Et au lieu de vider pour pouvoir mettre, j'ai continué à entasser. En plus, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut pour ne manquer de rien, et quand j'ai besoin de quelque chose, je ne le retrouve pas toujours. Quand j'ai parlé de mon histoire d'il y a 15 ans, que j'ai retrouvé une petite plaque, j'avais pas tant de bazar à cette époque-là. C'est devenu tellement fort que je ne retrouve plus rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne le retrouve pas. Et donc, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un gros souci, c'est qu'il n'y a plus moyen de vivre chez nous. Ça devient insupportable. Ma maison est grande, hein. Elle a 6 chambres, mais elles sont toutes encombrées. On dirait, en fait, ma maison dirait un grenier. Quand on monte dans un grenier, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a des petits sentiers, pas plus larges que 50 cm, pour circuler entre les cartons. Parce que bon, on entasse pour essayer d'avoir de la place dans les pièces où on vit. Eh bien, chez nous, il n'y a pas de pièces où on vit. On ne vit plus dans la maison. Maintenant, la maison est un grand grenier, un entassement de choses partout. Nous mangeons à trois sur un espace de table qui fait 30 cm sur un mètre et donc on doit se relayer. On mange en plusieurs services. On ne peut plus inviter personne. Ce qui me fait mal, c'est le fait que mes enfants doivent vivre dans cette ambiance. Ils n'ont déjà pas de bureau pour étudier, puisque bon, il n'y a pas de place. Donc, ils doivent étudier assis sur leur lit. J'ai peur que cette situation les marque pour leur vie. En plus, il n'y a plus de chauffage déjà depuis plusieurs années, parce qu'au moment où mon chauffage est tombé en panne, j'ai appelé un chauffagiste, et puis il m'a dit que c'était pas réparable, et donc j'ai reçu mon coup de massue quand il m'a dit que de toute façon, il ne viendrait pas travailler dans des conditions comme ça, puisque il n'y avait même pas moyen d'accéder à l'endroit où se trouvait la chaudière. Oui, pour faire une petite réparation, d'accord, mais pas pour vider une vieille chaudière, pour en remettre une nouvelle. On allait devoir atteindre tous les radiateurs, puisqu'on va vidanger le circuit. Il faudra après remettre de l'eau, et comme tout le monde sait, il faut purger les radiateurs pour enlever l'air. Et donc pour ça, il faut accéder aux radiateurs, et on n'y arrive plus. Ça fait déjà plusieurs années que j'espère que je vais pouvoir vider plein de choses qu'un jour j'aurai besoin. Vider suffisamment pour appeler le chauffagiste, je n'y arrive pas. J'ai essayé de vendre pendant un certain temps, surtout les vêtements des enfants. À l'époque, j'avais une Kangoo et je pouvais remplir tout l'arrière d'une Kangoo avec tous les vêtements de mes enfants. J'avais proposé tous les vêtements à 50 centimes et pourtant, c'était des beaux vêtements. Je suis revenue quasiment avec la moitié de mes affaires. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait donner. Alors donner, c'est un petit peu difficile quand même. Et même si j'ai eu les poils dans des bonnes conditions, si je les ai achetés neufs, j'ai quand même au minimum donné entre 15 et 20 euros. Et donc les vendre à combien ? 5 euros pour deux ? J'ai plutôt intérêt à les garder, on ne sait jamais. Je ne travaille plus depuis plusieurs années. Chaque matin, je me réveille pleine d'enthousiasme en me disant « Ah, aujourd'hui, je vais vider deux caisses ». Et quand j'arrive même simplement d'ouvrir la porte de la pièce où se trouvent ces caisses, je n'y arrive pas. Je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas comment prendre, je ne suis pas équipée au niveau mental et donc il me faut vraiment un soutien, quoi. Voilà. Mais moi, si je veux solutionner le problème, c'est surtout pour mes enfants. Tout ce que j'espère, c'est que j'arrive à le faire avant qu'ils ne quittent la maison. Parce que s'ils doivent quitter la maison alors que c'est encore dans cet état-là, je ne sais pas si j'aurai le courage de ranger tout ça. Si je suis toute seule, je ne sais pas. Le fait d'accumuler, ça peut se faire à plusieurs niveaux, au niveau des choses, mais au niveau des souvenirs, avec une immense mémoire. C'est comme si on pouvait tout retenir. Et j'accumule aussi les kilos, je mange beaucoup. C'est comme une protection. La couche de gras, c'est un peu une sorte de bouclier. On dirait que j'accumule de tout. J'ai contacté un service spécialisé ici à Bruxelles qui s'occupait de gens qui souffraient d'un problème d'accumulation qu'on appelle Diogène. Ils s'arrangent avec des services sociaux qui propose des aides ménagères, des aides familiales pour venir m'aider une ou deux fois par semaine pendant quelques heures. Parce que toute seule, je ne sais pas le faire. Il y a quand même une part de honte aussi. J'ai envie de m'en sortir. Peut-être retrouver goût à la vie, retrouver le plaisir de pouvoir passer du temps avec des amis chez soi. Puis j'espère en tout cas que l'année prochaine, j'aurai un chauffage. Pas plus tard qu'hier, un des services qui me vient en aide me disait qu'il faisait trop froid chez moi et qu'on ne pouvait pas envoyer la personne qui allait m'aider cette semaine. Il fallait que je trouve une solution. Je me suis mise, mais dans un état de panique. Je n'arrivais presque plus à respirer tellement j'étais prise, on aurait vraiment dit qu'on m'étranglait. J'étais prise à la gorge et j'ai des idées morbides aussi qui m'envahissent parfois. Je me dis à quoi ça sert de rester là si je ne sais plus vivre comme les autres. Je sens bien que si je n'ai pas des personnes pour m'aider, pour me soutenir, je n'y arriverai pas. J'ai laissé s'enfouir dans mes affaires des enveloppes avec de l'argent, des bijoux précieux auxquels je tenais, comme les bijoux souvenirs de mes grands-parents, des bijoux qui me venaient d'anniversaire que j'ai reçus, des choses comme ça, des objets qui me sont très précieux, dont je ne veux pas me séparer. Il y a des gens qui me disent « Bah, c'est pas grave, de toute façon, tu as pu vivre toutes ces années sans. Ça fait 10 ans que tu sais pas où c'est. Donc, pourquoi pas continuer ta vie sans ?» Et je ne peux pas me résoudre à vivre sans. Ça, c'est pas possible. Si c'est pour me séparer de ça, alors, bah, autant plus être là du tout. C'est aussi ce qui me sert de moteur. C'est retrouver toutes ces choses que j'ai perdues. Ça, peut-être, ça va m'aider à ranger ma maison.
Je m'appelle Joseph. J'ai déjà un certain âge, c'est-à-dire que j'ai dépassé l'âge de la pension. Je suis pharmacien de l'Université de Liège. Je suis belge par option, je suis d'origine polonaise. Mes parents étaient tous les deux polonais.
Voilà. Alors, le passage, c'est un peu comme si on enfilait un fil dans le char d'une aiguille. La cuisine, une toute petite cuisine lilliputienne, mais qui fonctionne. Elle est longue et étroite alors qu'elle devrait être courte et large. Une cuisine carrée, c'est l'idéal. Ici, c'est un rayonnage métallique qu'on a posé provisoirement, mais normalement, il est contre cette armoire-là. Alors on arrive à passer, à condition de manger une certaine quantité de carottes. L'endroit, je dirais que c'est un Capharnaüm, un repère d'Ali Baba. Je n'irai pas jusqu'à dire un dépotoir. Non, il y a du désordre, mais il y a des choses de valeur. Mais quand même, c'est pire qu'une catastrophe. Je crois qu'il faudrait créer un néologisme qui me serait destiné en particulier. Ici, c'est 2 chambres. Mais on a très vite besoin de 2 chambres parce que les logements sont tellement petits et on a tellement de choses à ranger. Du temps où mes parents étaient là, ils n'auraient jamais permis une telle catastrophe de naître. Ça a dérapé à partir du moment où mes parents m'ont quitté. Alors, ma maman, elle est partie en 1987 et mon papa en 1997, le 30 juin, même que c'était un lundi. Là, je n'étais plus sous surveillance parce qu'ils étaient 2 à me contrôler. Ça, c'est l'avantage d'être enfant unique parce que les parents peuvent concentrer toute leur énergie sur un seul enfant. Donc, ils n'auraient pas permis le désordre, ça c'est évident. Donc, ce n'était pas un dérapage artistique contrôlé, mais un dérapage anarchique. Alors, c'est très progressif. Tel objet, on se dit, est-ce que je le garde ou pas? On hésite, et puis je le garde. Je me dis, on ne sait jamais, ça peut servir. Mais il faut savoir où le déposer, justement, pour ne pas créer de désordre. Et puis, un deuxième objet qui se présente, et ainsi de suite. Il y a les vêtements, tout ce qui est alimentaire. Il y a les souvenirs, la correspondance. Il y en a qui sont très précieuses. Un jour, je vais dans un magasin et j'achète une colonne avec des casiers. Là. Et 15 jours après, de nouveau. Et une semaine après, une 3e colonne. Et c'était chaque fois la même vendeuse. Et alors, la 3e fois, elle me dit comme ça, en aparté, « Mais que faites-vous avec tous ces casiers ?»« Ah, mais je dis, c'est pour y entreposer la correspondance de mes ex. » J'ai quand même fortement exagéré. Parfois, je récupère des choses dans la rue, Un jour, j'ai trouvé le livre « Le tour du monde en 80 jours ». Et parfois, la récolte est tellement fructueuse qu'on ne prend pas tout. On sélectionne. Il y a des gens comme ça qui se débarrassent de leurs livres en surplus. Ils les déposent devant chez eux. Les gens se servent. Lorsqu'il y a quelque part un mode d'emploi ou une documentation, j'en prends deux ou trois parce que je me dis je vais en perdre un exemplaire et puis je vais garder deux exemplaires que je mettrai à deux endroits différents. Comme ça, j'ai de meilleures chances de retrouver ça. C'est assez malsain, mais ça peut fonctionner convenablement si on a deux endroits privilégiés. Mais le mieux, c'est quand on rentre chez soi, très rapidement, de ranger ses documents et tous les objets qu'on a acquis, de les ranger le plus rapidement possible. Ça soulage beaucoup. Mais je me dis, je dépose ça là, et je ne sais pas quand je m'en occuperai. Ça, c'est peut-être l'erreur. Ça a l'air évident, sauf quand on vit dedans. On remet du jour au lendemain, mais le lendemain, il y a de nouvelles choses qui se présentent. La procrastination, c'est une maladie très répandue, mais chez moi peut-être un peu plus que dans la moyenne. Parfois je m'y mets, mais je suis souvent découragé par l'énormité de la tâche. Il faut être assisté. Je me juge moi-même aussi. Un dégoût, et puis une grande lassitude. Il arrive un moment où on est débordé. Et c'est un peu comme si on se noyait et que vous n'avez pas d'assistance. Il y a des gens qui ont du désordre et il y en a de différentes catégories. Il y en a qui se complaisent dans leur désordre. Et puis il y a les autres. Ça, c'est moi, parce que je souffre beaucoup de cette situation. Quand je dois trouver un document, j'ai parfois du mal, ça prend du temps. Et curieusement, à ce moment-là, j'ai le temps pour chercher ce document. Donc, c'est une question d'organisation. Mais ce temps aurait pu être exploité d'une manière plus rationnelle. Ça me pèse beaucoup, c'est comme une tunique de Nessus qui se serait emparée de moi. J'essaye de m'en débarrasser. Si je suis aidé, ça va. Il y a de l'espoir, il y a moyen d'obtenir un résultat. Mais quand on est seul au monde comme moi, il faut vaquer à ses occupations, il faut faire ses achats de produits alimentaires, entre autres. Tout ça, ça prend du temps. J'essaye de déléguer au maximum. Ça n'est pas toujours facile. Parce que quand on a une femme de ménage, il y en a des bonnes et des moins bonnes. La meilleure, une Polonaise. Je ne dis pas ça parce que j'aime la Pologne, mais je l'ai constaté. C'est bien d'être aidé, mais il faut que ce soit fait convenablement. Alors elles avaient un double rôle, et faire de l'ordre, c'était une partie de leur travail. C'est le résultat d'un ensemble de causes qui font qu'on arrive à ce résultat-là. Je pense que c'est le résultat d'un ensemble de frustrations. Vraisemblablement, j'essaye de compenser ça en accumulant des choses. Je n'ai pas connu d'enfance au sens où on l'entend habituellement. Mon enfance, c'était la guerre. J'étais encore très jeune lorsque la guerre a commencé. Devant cette horreur, on se sent tellement petit. Tellement impuissant devant l'immensité d'uniformes verts. L'armée allemande avait des uniformes verts. Ils viennent chez vous et alors ils hurlent littéralement comme des loups. Ihre Papieren bitte, vos papiers s'il vous plaît. On leur présente les papiers, ils regardent et ils disent Ach so, sie sind ein Jude. Ah bon, vous êtes un juif. Parce que c'était écrit sur la carte d'identité. Aber das ist sehr interessant. Voilà qui est très intéressant. C'était comme des aboiements. On se sent vraiment dans un désert glacé, avec de la glace qui vous entoure partout et qui essaye de vous attaquer. Ça devenait très dangereux et il fallait que je me sépare de mes parents. Si on restait ensemble, on risquait d'être emportés tous les trois. Si j'étais séparé, il y en a un qui avait une chance de s'en sortir. Ce qui est important, c'est de ne pas augmenter le désordre. Si on arrive déjà à le stabiliser dans un premier stade, c'est déjà un succès. Ça laisse de l'espoir pour la suite. Ça s'est amélioré quand même. J'ai déjà commencé par me débarrasser des publicités. Ça, c'est une chose. Les quotidiens aussi. Dès que c'est périmé et que je ne l'ai pas lu, je ne prends plus la peine de le lire parce que sans ça, on n'en sort plus. À la limite, les objets de peu de valeur, il vaut mieux les jeter, quitte à les racheter après. Maintenant, je commence à classer, déjà depuis un certain temps, des documents dans les fards à rabat, des chemises de couleurs différentes. J'ai un certain nombre de chemises vides, en attente, parce que je suis quelqu'un de très bien organisé quand je m'y mets. Moi, je trouve que c'est extrêmement confortable quand on a des chemises en attente. Une fois que c'est ordonné, ça ressemble à quelque chose. J'ai des choses utiles et qui sont rangées, celles-là, tout ce qui concerne la quincaillerie, la plomberie, les pièces techniques. Ça, quand même, c'est assez bien fait. Parfois, j'arrive à retrouver un objet les yeux fermés. Mais ça prend un peu plus de temps, bien sûr. Alors je n'abuse pas. Donc c'est une évolution qui est trop lente. Papa était très ordonné, ma maman aussi, mais ils ne m'ont pas transmis ça en héritage. C'est dommage.
It looks a lot like a new adventure, sailed across an invisible sea. Well, I was always wondering where you went when the bow of your ship hit me.
C'était Accumulé ou encore Le syndrome de Diogène, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Anne-Laure Chanel. L'attachée de production, c'est Aurélie Marsay. Avec Camille Richir, merci à Catherine Toby, à Lélia Sidi du centre médical d'Adret à Forest à Bruxelles. Merci à Messaline Raverdi, à Claire et à Joseph. And one for the idolized, the big sky.